Chapitre 43. La couronne de roses. Roulant en direction de la couronne de roses, le coche loué de Merana se frayait lentement un chemin dans les rues bondées. Extérieurement, la sœur était très calme. Une femme aux cheveux noirs et aux yeux noisettes, dont les mains aux doigts fins reposaient paisiblement sur le devant de sa jupe de soie grise. À l'intérieur, la sérénité n'était pas de mise. 38 ans plus tôt, elle avait été présente pour la négociation d'un traité entre l'Arad d'Oman et le Tarabone, censé mettre un terme à leur querelle au sujet de la plaine d'Almotte. Finassant dès qu'ils en avaient l'occasion, les Domani et les Tarabonais étaient par trois fois passés à un souffle de se déclarer la guerre, tout ça sans jamais se départir d'un sourire débordant de bonne volonté. Une fois l'encre des signatures à peu près sèche, Merana avait eu le sentiment d'avoir dévalé une série de collines en étant enfermée dans un tonneau rempli de clous. Après cette terrible épreuve, on avait vite découvert que le traité ne valait pas le prix de la cire et des rubans de son cachet. Merana espérait que la tâche ardue qu'elle avait entreprise l'après-midi même au palais royal aurait une fin plus heureuse. Il le fallait, bien sûr. Mais elle avait quand même le sentiment de venir de s'extirper péniblement d'un nouveau tonneau. Le dos contre la banquette, Mine avait les yeux fermés. Dès qu'aucune Aes Sedai ne lui parlait, la jeune femme semblait prise de l'envie subite de faire une sieste. Surprise, les deux autres Aes Sedai présentes dans le véhicule lui jetaient de fréquents regards. Séonide, tranquille et réservé dans sa tenue verte, et Massouri, tout aussi digne dans sa robe marron brodée de fleurs à l'ourlet. Les trois émissaires s'étaient habillés protocolairement, optant pour le châle et une couleur assortie à leur haja. Merana aurait parié que ses collègues pensaient la même chose qu'elle lorsqu'elle regardait Mine. Séonide était certainement capable de comprendre, même si on ne pouvait jurer de rien. Avec ses champions, elle se montrait très méthodique et pratique, un peu comme la maîtresse de deux superbes chiens loups qui auraient éprouvé un peu d'affection pour eux. Massouri, elle, aurait dû comprendre, car elle aimait danser et même se laisser compter fleurette, même si elle était du genre à abandonner son galant dès qu'elle entendait parler de quelque antique manuscrit caché. Pour sa part, Merana n'avait plus été amoureuse depuis des lustres, longtemps avant ce fameux cinquième traité de Falm. Mais elle se rappelait très bien de ce que ça faisait. Un seul coup d'œil sur Mine en train de boire Randall Thor des yeux lui avait suffi pour reconnaître une femme qui venait de jeter la raison aux orties et n'écoutait plus que les emballements de son cœur. Rien ne prouvait que Mine, ignorant les mises en garde, ait oublié sa promesse et tout raconté à Altor. Mais il savait au sujet de Salidar. Il était informé qu'Elaine s'y trouvait. Et il avait été amusé, oui, amusé, par les louvoiements des trois émissaires. Outre la question de savoir si Mine avait trahi, dans le doute, il faudrait prendre garde à ce qui se dirait en sa présence, ces nouveaux éléments étaient terrifiants quand on les ajoutait à tout le reste. Merana n'avait pas l'habitude de l'angoisse. Après la mort de Bassan, avant la guerre des Aiel, elle avait connu ce sentiment durant toute une année. Était-ce pour ça qu'elle n'avait jamais repris de champion, ou parce qu'elle était trop occupée pour chercher l'homme idéal? Mais depuis, elle n'avait jamais été tracassée par davantage qu'une vague appréhension. Là, elle crevait de peur, et elle détestait ça. Rien n'était compromis pourtant, et aucun véritable désastre ne s'était produit, mais la seule vue de Randall Thor l'avait terrorisée. Le coche s'arrêta abruptement dans la cour de la couronne de roses, et des garçons d'écurie à la veste ornée de roses, il fallait ce qu'il fallait, vinrent prendre les rênes et ouvrir les portières. Avec ses lambris sombres et ses grandes cheminées de marbre, la salle commune de l'auberge était à la hauteur des trois niveaux de pierre de taille blanche du superbe bâtiment. Sur le manteau d'une des cheminées, une grande horloge discrètement relevée de dorure sonnait joliment les heures. En robe bleue, les serveuses arboraient un tablier blanc brodé d'une gerbe de rose. Toutes étaient souriantes, courtoises et efficaces. Et celle qui n'était pas carrément belle méritait au moins d'être qualifiée de jolie. La couronne de roses était l'établissement favori des nobles de province qui ne possédaient pas de pied-à-terre à Kemlin. Mais pour l'heure, les tables étaient occupées par des champions, plus Alana et Vérine assises au fond de la salle. Si Merana avait eu son mot à dire, ces deux-là auraient attendu aux cuisines avec les domestiques. Toutes les autres sœurs étaient sorties. Il n'y avait pas de temps à perdre.
Ça ne vous dérange pas?
Dit Mine.
J'aimerais aller me promener, histoire de découvrir un peu Kemlin avant la nuit.
Merana acquiesça. Tandis que la jeune femme gagnait la porte, La sœur regarda Séonine et Masourie, tout en se demandant combien de temps il faudrait à Mine pour être de retour au palais. Rondelette, comme quasiment toutes les aubergistes que Merana avait vues, maîtresse Sinchonine approcha en se tordant les mains, puis se fendit d'une révérence.
« Aïe, Sedaï, puis-je faire quelque chose pour vous? Un rafraîchissement, peut-être ?»
Cette femme avait souvent reçu Merana, toujours très bien, avant et après avoir appris qu'elle était une sœur.
« Une infusion à la mûre, dans le salon privé, à l'étage. »
Son sourire s'effaçant dès qu'elle eut tourné le dos, maîtresse Sinchonine partit en quête d'une serveuse. Merana fit signe à Vérine et à Alana de venir la rejoindre, et les cinq sœurs s'engagèrent dans l'escalier. Quand on le souhaitait, ce qui n'était pas le cas de Merana, les fenêtres du salon privé permettaient d'observer la rue. Afin d'étouffer le bruit, elle ferma au contraire celle qui était ouverte, puis s'en détourna. Alors que Séonide et Masourie étaient déjà assises, Vérine et Alana avaient préféré rester debout. Bien qu'elle ne le fût pas, la robe en laine sombre de Vérine semblait froissée. Comme souvent, la sœur avait une tache d'encre sur le bout du nez, mais son regard d'aigle ne manquait rien, contrairement à ce qu'aurait pu laisser croire son apparente distraction. Les yeux d'Alana, eux, brillaient de colère, très probablement, et ses mains tremblaient, tandis qu'elle serrait le devant de sa robe bleue au corsage jaune. À voir l'état du vêtement, on aurait juré qu'elle avait dormi dedans. Bien sûr, elle avait des excuses, un certain nombre même, mais pas suffisant.
« Alana, je ne sais pas encore si ton initiative a eu des effets négatifs. Il n'a pas évoqué ta façon de le lier à toi contre sa volonté, mais il a été très sec et... a-t-il édicté d'autres restrictions ?»
coupa Vérine.
« Pour moi, tout semble aller très bien. Rondalton n'est pas parti en apprenant votre arrivée, et il a même reçu trois émissaires en même temps. Assez courtoisement, je suppose. Sinon, nous verrions la fumée vous sortir des naseaux. Ce garçon a un peu peur de nous, ce qui est très bien. Sinon, il n'aurait pas songé à des restrictions. Mais tant qu'il ne les aura pas rendues plus strictes, nous aurons autant de liberté qu'avant. Donc, il n'est pas terrifié, et nous ne devons pas prendre le risque qu'il le soit. »
Le hic, bien sûr, était que Vérine et Alana n'appartenaient pas à la délégation. Du coup, Merana n'avait aucune autorité sur elle. Ayant appris au sujet de Loghain et des sœurs rouges, les deux femmes reconnaissaient qu'Elaïda ne devait pas rester la chair d'Amerlin. Mais ça ne signifiait rien de déterminant. Bien entendu, Alana n'était pas vraiment un problème, mais plutôt un facteur de risque. En matière de puissance, Merana et elle étaient si proches l'une de l'autre qu'il aurait fallu pour les départager un duel tel que les novices aimaient en organiser, jusqu'à ce qu'elles se fassent prendre. Le noviciat d'Alana avait duré 6 ans, et celui de Merana seulement 5. Mais il y avait plus important. Le jour où l'accoucheuse avait déposé Alana contre le sein de sa mère, Merana était une Aes Sedai depuis plus de 10 ans. Ce qui réglait la question, Merana dominait. Aucune des deux sœurs ne réfléchissait en ces termes, sauf si quelque chose l'y encourageait. Mais elles avaient conscience de cette hiérarchie et réagissaient en conséquence. Non qu'Alana eût été susceptible d'obéir à Merana. Mais en cas de conflit, un respect instinctif lui aurait dicté une certaine retenue. Sans compter la mauvaise conscience due à ce qu'elle avait fait. Le vrai problème, c'était Vérine, la femme qui avait forcé Merana à réfléchir en termes de force et de domination. Une nouvelle fois, Merana tenta de sonder la puissance de Vérine. Bien entendu, elle savait ce qu'elle allait trouver, mais impossible de dire qui était la plus forte. 5 ans de noviciat pour chacune, et 6 dans la robe d'accepté. Les deux seuls détails biographiques qu'une Aes Sedai connaissait toujours sur une autre, même quand elle n'en savait rien de plus. Mais Vérine était plus vieille que Merana. Une différence presque aussi grande qu'avec Alana, mais dans l'autre sens. La nuance de gris dans les cheveux de Vérine rappelait en permanence cette réalité à Merana. Si Vérine avait fait partie de la délégation, il n'y aurait eu aucun problème. Mais là, plusieurs fois, Merana s'était surprise à écouter son aîné avec une attention et un respect hors de propos. Le matin même, elle avait dû se rappeler 2 fois que Vérine ne dirigeait pas la délégation. Par bonheur, Vérine devait avoir le sentiment de partager la culpabilité d'Alana, et ça rendait les choses à peu près supportables. Sans ça, elle aurait sans doute été la première à s'asseoir en entrant dans le salon. Si seulement il y avait eu un moyen de la convaincre de rester au molosse de Kulain pour veiller sur sa cargaison de futurs novices en provenance de 2 rivières. Prenant un siège de façon que Séonide, Masourie et elle encerclent les 2 autres, Merana tira sur son châle et sur le devant de sa robe. Être assise alors que Vérine et Alana restaient debout lui conférait une certaine supériorité morale sur elle. Et à ses yeux, l'acte d'Alana s'apparentait à un viol.
Pour tout dire, Randaltor a édicté une nouvelle restriction. Je vous félicite d'avoir localisé son école, toutes les deux. Mais je vous suggère fortement de renoncer à tous les projets que vous pourriez avoir concernant cette institution. Altor nous a recommandé de rester loin de ces hommes.
Merana le revoyait encore, assis sur son énorme trône, celui du lion à l'arrière-plan, et brandissant un étrange moignon de lance. Une coutume à Yel, sans nul doute. « Écoutez-moi bien, Merana Sedai, » avait-il dit d'un ton à la fois plaisant et ferme. « Je ne veux aucune friction entre les Aes Sedai et les Ashaman. J'ai dit aux soldats de rester loin de vous, mais je ne veux pas qu'ils soient une proie facile pour les Aes Sedai. Si vous allez chasser à la tour noire, vous risquez de devenir le gibier, et nous voulons tous les deux éviter ça. » Merana portait le châle depuis assez longtemps pour ne pas frissonner chaque fois qu'on lui criait « boue » dans le noir, mais elle avait du mal à s'en empêcher. « Les Ashaman ? La tour noire ? Mazrim Taïm ? Comment tout ça avait-il pu aller si loin ? Pourtant, Alana était formelle. Il y avait plus d'une centaine d'hommes. Bien entendu, elle refusait de citer ses sources. Aucune sœur n'aurait grillé ses agents, mais ça n'affaiblissait pas son témoignage. « Quand on chasse deux lièvres à la fois, on rate les deux », disait un vieux proverbe. Altor était le lièvre le plus important du monde. Tous les autres devraient donc attendre.
« Est-il encore là ou parti ?»
Si Vérine et Alana ne s'alarmaient pas que Randaltor soit capable de voyager, Merana trouvait ça désagréable. Quel autre don oublié des Aes Sedai avait-il redécouvert ?«
Alana ? Alana ! »
La mince sœur verte sursauta, s'arrachant à quelques mystérieuses rêveries. Une tendance très marquée chez elle, la rêverie.
« Il est en ville. Au palais, je crois. »
Toujours cette voix un peu nébuleuse.
« C'était... Il a au flanc une vieille blessure qui n'est pourtant qu'à demi guérie. Chaque fois que j'y pense, ça me donne envie de pleurer. Comment peut-il vivre avec ça ?»
Séonide regarda sévèrement sa collègue. Toute femme dotée d'un champion sentait ses blessures. Sachant ce qu'Alana avait enduré après la mort de Wayne, elle parla cependant d'un ton presque compatissant.
« Teryl et Fouren ont récolté des blessures qui ont manqué me faire perdre connaissance, alors que notre perception les adoucit quand même. Ils n'ont pas failli pour autant, même une seconde. Je crois que nous sommes sur le bon chemin. »
intervint ma souris. Elle ne haussait jamais le ton, mais comme toutes les sœurs marron, ses propos visaient toujours juste.
« C'est vrai, »
dit Merana.
« J'ai envisagé de prendre la place de Moiraine à ses côtés. »
Un petit coup frappé à la porte annonça l'arrivée d'une servante. La couronne de rose étant le lieu de prédilection de la noblesse, elle déposa sur un guéridon une bouilloire d'argent et des tasses de porcelaine. Lorsque la servante se fut retirée, Merana constata qu'Alana n'avait plus rien d'évanescent. Au contraire, une flamme inédite brillait dans ses yeux. Les sœurs vertes étaient encore plus jalouses de leur champion que les autres. Malgré la façon peu loyale dont elles se l'étaient attachées, Randaltor comptait désormais parmi les champions d'Alana. En d'autres termes, il lui appartenait. Dans des cas pareils, la déférence passait par-dessus bord. Le dos bien droit, Alana attendait les prochaines paroles de Merana pour savoir si elle devait attaquer bec et ongle. La chef de la délégation attendit que l'infusion soit servie et que tout le monde se soit rassis. Elle invita même Vérine et Alana à prendre un siège. Même si elle avait perdu Owain, cet irresponsable d'Alana méritait d'être rudoyé. Après tout, son acte était peut-être carrément un viol.
« J'ai envisagé de prendre la place de Moiraine à ses côtés, »
répéta Merana.
« Et j'ai décidé de ne rien faire. Si j'y renonce, Alana, c'est à cause de toi. Il se méfie tellement des Aes Sedai désormais qu'il risquerait de me rire au nez si je lui propose mon assistance. « Aussi arrogant qu'un roi, »
dit Séonide.
« Tout ce qu'Elaine et Nineveh nous ont décrit, et pire encore, »
ajouta ma souris.
« Prétendre qu'il peut sentir une femme quand elle canalise. J'ai failli m'unir à la source pour lui montrer son erreur. Mais il aurait exigé une démonstration, et voir le Saïdar en action l'aurait trop effrayé. « Tous ces Aiel !»
maugréa Séonide, avec la répulsion typique de tout Kyrianien évoquant les guerriers du désert.
« Ces hommes et ces femmes, je crois qu'ils nous auraient volontiers embrochés avec leurs lances au premier geste suspect. Une femme aux cheveux blonds, au moins elle portait une jupe, n'a fait aucun effort pour cacher son antipathie à notre égard. »
Par moments, se dit Merana, Séonide semblait ne pas mesurer à quel point Altor lui-même était dangereux. Alana se mordillait la lèvre inférieure comme une gamine prise en faute. Heureusement qu'elle avait Vérine pour veiller sur elle. Dans son état, elle n'aurait pas été en sécurité, seule dans le grand monde. Merana se surprit à éprouver de la compassion. après la mort de Baran, n'avait-elle pas été un fragile paquet de nerfs, susceptible de craquer à tout moment ?
« Par bonheur, » dit-elle, « la méfiance d'Altor pourrait avoir un bon côté. À Caerien, il a reçu des émissaires d'Elaïda. Sur ce sujet, il nous a parlé très ouvertement. Sa méfiance l'incitera à les tenir à distance, je parie. Il entend nous jouer les unes contre les autres ?»
demanda Séonide en posant sa tasse dans la soucoupe.
« Et ça pourrait bien fonctionner, »
dit Masuri,
« si nous n'en savions pas beaucoup plus long sur lui qu'Elaïda. Elle a dû préparer ses émissaires à rencontrer un berger, en veste de soie, certes, mais un berger quand même. Il n'a plus rien à voir avec ça. Moiraine l'a bien formé. Nous savions à quoi nous attendre. »
approuva Merana.
Je doute que les autres aient été dans ce cas.
Alana regarda les trois sœurs, puis elle scia.
Alors je n'ai pas tout gâché.
Merana, Séonide et Masuri acquiescèrent. Alana prit une grande inspiration, puis elle tira sur sa robe, comme si elle venait juste de s'aviser qu'elle faisait des plis.
Je peux peut-être encore le convaincre de m'accepter.
Oubliant sa robe, Aes Sedai continua de parler en prenant de l'assurance à chaque mot.
Au sujet de son amnistie, nos plans doivent être suspendus, j'en conviens. Mais ça ne doit pas nous interdire d'en faire. Un tel danger ne peut être ignoré.
Un instant, Merana regretta son accès de compassion. Alana avait mal agi envers un homme, et tout ce qui l'inquiétait, c'était de savoir si ça minorait leurs chances de succès. À contre-cœur, cependant, Merana dut admettre que cette agression, si elle avait rendu Altor docile, lui aurait paru bien moins choquante.
La priorité, Alana, c'est de dompter Altor, si je puis parler ainsi. Au sujet de l'amnistie, tout restera sous le boisseau aussi longtemps qu'il faudra.
Alana pinça les lèvres, mais elle finit par hocher la tête, sans grande conviction toutefois.
Et comment le dompter ?
Demanda Vérine.
Il faut le traiter délicatement. C'est un loup, on laisse. Mais cette laisse n'est pas plus épaisse qu'un fil.
Merana hésita. Elle n'avait pas l'intention de tout partager avec ces deux femmes, dont la loyauté au hall de Salidar restait à démontrer. De plus, elle redoutait ce qui arriverait si Vérine tentait de prendre le pouvoir ici, si elle réussissait en fait, parce que le processus était déjà engagé. Bien entendu, elle avait toutes les armes pour affronter la situation. Si on l'avait choisie, c'était à cause de toute une vie passée à arbitrer de très chaudes querelles, et à négocier des pactes et des traités entre des gens qui se haïssaient passionnément. Tous ces accords finissaient par être violés, idem pour les traités, parce que la trahison faisait partie de la nature humaine. Pourtant, en 46 ans, le 5e traité de Falm avait été son seul véritable échec. Elle savait tout ça. Mais au bout de tant d'années, certains instincts étaient profondément ancrés en elle.
« Nous avons pris contact avec certains nobles. Coup de chance, ils sont tous à Kaemlyn en ce moment.
C'est Elaine qui m'inquiète. »
dit Dame Dailéline, d'autant plus fermement qu'elle était seule dans le salon avec une Aes Sedai. En tête à tête, les sœurs parvenaient encore plus aisément à exploiter les éventuelles faiblesses de leurs interlocuteurs, tout particulièrement quand personne ne savait qu'on conversait en privé avec l'une d'elles. Caerien Sedai sourit, mais rien dans son expression ne fournit un indice sur ce qu'elle pensait vraiment.
« Il est fort possible que la fille héritière soit bientôt assise sur le trône du lion. Ce qui semble insurmontable au commun des mortels l'est rarement pour les Aes Sedai. » Le dragon réincarné a dit « Les hommes sont bavards, Dame Dailéline. Mais vous savez que je ne mens jamais. »
Le seigneur Luan flatta l'encolure de l'étalon gris théarien, tourna la tête à droite et à gauche pour s'assurer qu'aucun garçon d'écurie n'approchait et évita de justesse une morsure vicieuse. Le champion de Raphaëla était censé l'avertir si quelqu'un arrivait. Mais ces derniers temps, Luan n'était plus très sûr de se fier à quiconque, à part lui-même. En particulier dans le cadre d'une telle visite.
« Je doute d'avoir bien compris, » dit-il.
« L'union vaut mieux que la division, »
déclara Raphaëla.
« La paix est préférable à la guerre et la patience à la mort. »
Luan sursauta, décontenancé par la curieuse fin de ce qui était sinon un chapelet de platitudes.
« Seigneur Luan, »
conclut Aes Sedai au visage rond,
« le royaume d'Andan ne se portera-t-il pas mieux si Randaltor le quitte, en laissant derrière lui la paix et l'unité ?»
Tenant son peignoir fermé d'une main, Dame et Lorienne foudroya du regard la Aes Sedai qui avait réussi à la surprendre dans son bain, sans se faire annoncer, et probablement sans qu'on la remarque. Comme si la situation n'avait rien d'extraordinaire, la femme à la peau cuivrée assise sur un tabouret, d'un côté de la baignoire, soutint son regard sans broncher.
« Qui aura le trône du lion au bout du compte, Demira Sedai ?»«
La routisse comme elle l'entend. »
Une réponse lapidaire, et la seule qu'Elorienne obtiendrait, elle le savait.